Bienvenue dans la Poésie des Omelettes, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les choses dans notre société. Ces personnes qui mettent leur énergie dans l'émergence de solutions concrètes, justes et durables. Bref, ceux qui ont compris qu'on ne faisait pas d'omelettes sans casser des œufs. Pour ce tout premier épisode, j'ai eu le plaisir de retrouver une personne qui m'a toujours impressionnée par son optimisme et son énergie à toute épreuve. Il s'agit de Maëva, une baroudeuse en devenir et qui, comme de plus en plus de gens aujourd'hui, voit le voyage non pas comme un simple loisir, mais plutôt comme une opportunité d'avoir un impact positif sur l'environnement. Bon, petite précision, cet épisode a été enregistré pendant le confinement, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son. Allez, bonne écoute! Bah bonjour Maëva, écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir à l'autre bout du fil. Bon, on peut pas se voir malheureusement, c'est dommage, mais on fait avec les moyens du bord.
Voilà, exactement. C'est un plaisir en tout cas de t'intervenir dans ton podcast.
Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas Maëva, c'est une de mes amies que j'ai rencontrée du cours de mes études. Et pour la petite anecdote, je l'ai rencontrée en cours de salsa, parce que ouais, c'est une passion qui nous lie toutes les deux. Et en tout cas, elle danse très très bien. Donc si jamais vous voulez prendre des cours, je vous donnerai ces coordonnées. Et bah, je te laisse te présenter, Maëva, pour de plus amples détails.
Alors, donc je m'appelle Maëva, j'ai 23 ans. Mes hobbies, c'est un petit peu... c'est vrai que bah, voilà, la danse, le sport...
La salsa.
J'ai fait pas mal de foot pendant mon université. J'ai fait aussi pas mal de footing. J'aime bien un petit peu me challenger. Sur différents sujets, à la fois un peu la musique aussi. J'ai fait pas mal de piano quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'aime bien être un peu polyvalente, le dessin, c'est des choses entre artistiques et culturelles, sportives. Voilà, c'est
un petit peu... que de talent, moi.
On essaye, hein. Voilà, après, bah, pour mon parcours, donc, bah, comme tu disais, j'ai fait l'UTT. Donc, c'était après mon bac S. Au début, j'étais plutôt partie sur la médecine et puis finalement, je cherchais quelque chose de plus technique, plus technologique. Donc, je me suis dit je suis rentrée dans l'école d'ingénieur généraliste de l'UTT, Université de Technologie de Troyes, donc là où j'ai rencontré Emma. Voilà, et donc j'ai fait 2 ans d'abord très général, où ça a été assez difficile niveau théorie, mais voilà, on y est arrivé. Et puis ensuite, je me suis spécialisée dans les matériaux. Alors pourquoi j'ai choisi ingénieur? Je pense que c'est le côté technique qui m'a attirée et le fait de pouvoir avoir un impact quand on est dans les entreprises ou quand on monte des projets, on peut avoir un impact sur la société en réalisant des services, des produits par exemple. Et en parallèle, je commençais aussi beaucoup à m'intéresser à l'environnement, aux questions environnementales. Quand on voit bah, tous les problèmes de réchauffement climatique, la déforestation, tous ces problèmes-là. Et puis là, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire.
Et donc, bah, justement, ce projet de césure, il est arrivé comment? Enfin... Comment ça a un peu germé dans ton esprit, le fait de vouloir partir comme ça?
Alors, ça a été petit à petit. C'est vrai qu'au début, je l'avais depuis très longtemps en tête, peut-être depuis 2-3 ans. Au départ, je m'étais dit, ouais, je vais faire un road trip en Australie pendant 6 mois. Et puis, un petit peu le rêve, quoi, américain ou australien, je ne sais pas comment on dit trop, mais voilà. Et puis, petit à petit, je me suis dit, ben ouais, une césure, ce serait bien, mais j'aimerais bien quelque chose qui ait plus d'impact. Donc, j'ai été inspirée par pas mal d'amis autour de moi qui ont, comme ça, qui avaient un projet. Donc, certains ont fait du volontariat. Et je me suis dit, ça, c'est vrai que ça pourrait être un moyen de pouvoir voyager, alors pour pas très cher. Le volontariat, en fait, le principe, c'est qu'on soit hébergé chez la personne et on apporte son aide. En échange de l'hébergement. Et en fait, je me suis dit, ce serait super intéressant de pouvoir partir dans différents pays avec des niveaux de développement et des modèles économiques qui soient très différents. pour constater un petit peu la situation économique, environnementale par moi-même, voir un petit peu aussi m'initier à l'environnement, comment les populations, leur rapport avec la nature, etc. Et puis pour pouvoir un peu voir quelles sont les techniques là-bas sur place qu'ils emploient pour, je sais pas, pour faire de l'agriculture par exemple, pour vivre et s'en inspirer. Donc le projet initial, c'était d'abord, je voulais partir au Népal. Le Népal, parce que c'est un pays qui est quand même assez pauvre, touché par la pauvreté, très rural, qui est assez vulnérable et puis très affecté par les changements climatiques. Voilà, après le second projet, on va dire, que je voulais faire pendant ma césure, c'était de me rendre sur le continent africain. Donc ça, c'était une volonté, et puis surtout que l'Afrique, c'est un continent sur lequel j'ai jamais vraiment été et que j'avais vraiment envie de découvrir. Et puis, dans un troisième temps, l'idée, c'était aussi de, comment dire, de aussi voir l'aspect dans un pays qui lui est développé, donc comme la Suède par exemple, qui est classé premier pays plus écologique dans le monde. Et oui, il faut le savoir.
Donc voir comment certaines façons de faire d'un pays pourraient éventuellement inspirer l'autre pays ou...
Voilà, exactement. C'était vraiment le projet comme ça. Et je m'étais dit aussi pour moi-même, enfin pouvoir m'enrichir moi sur ces thématiques-là, pouvoir vivre comme ça dans une maison en autonomie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà, comment un petit peu. C'était mes interrogations et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette césure.
Et donc, une fois là, le plan un peu bien structuré dans ta tête, comment tu t'es pris d'un point de vue un peu plus pratique pour rechercher le volontariat, les différentes structures qui éventuellement pouvaient t'héberger? Enfin, c'est comment tu as fait pour préparer toute cette césure en amont?
Alors, ça a été très long, ça a été beaucoup de questionnements, j'ai fait énormément de recherches sur Internet, sur les blogs, les forums, aussi sur des conférences qui étaient à l'UTT, notamment sur comment voyager autrement. Je me suis beaucoup renseignée. Et puis, il y avait le volontariat. Donc, moi, je suis passée par le site Workaway, qui est un site en fait où les hôtes qui ont besoin d'aide postent des annonces. Alors ça peut être tout et rien, c'est-à-dire que ça va de la ferme biologique à la garde d'enfants jusqu'à des missions beaucoup plus poussées dans des ONG ou vraiment pour l'éducation des enfants. Enfin, c'est très très vaste, donc vous avez plein de missions différentes. L'inscription, il y a une fois à payer, c'est de l'ordre de 30 euros. Et puis, c'est ouvert pendant 2 ans. Et on peut comme ça candidater. Donc, le principe, c'est qu'on est hébergé gratuitement en échange de 5 heures de travail à peu près par jour. 5 à 7 heures de travail par jour, définies avant avec l'hôte. Donc, on peut contacter l'hôte directement via le site internet. C'est très bien fait. Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis prise.
Et ce travail, il est... Enfin, tu penses qu'il faut des capacités, enfin, des connaissances techniques pour faire certains travaux qui sont proposés, ou on peut y aller en mode, bah, je sais faire un petit gâteau, je sais jardiner vite fait.
Ah oui, c'est complètement. On n'est pas obligé d'avoir des compétences vraiment pour faire ça. Enfin, on peut garder des enfants, voilà, comme tu dis, faire la cuisine, prêter main forte dans les tâches du quotidien, voilà, ça tout le monde, je pense que tout le monde peut le faire, le jardinage, voilà. Puis c'est aussi l'occasion d'en apprendre en fait, parce que les autres, ils savent très bien que bah, tout le monde ne sait pas faire de la peinture, tout le monde ne sait pas faire du jardinage, et c'est aussi l'occasion d'avoir un échange comme ça culturel, et ça, je trouve ça super important. Avec voilà, pour apprendre soi-même des choses qu'on sait pas forcément faire. Et donc c'est en soi aussi que cette expérience est vachement enrichissante. Voilà, après le souci, c'est que bah, y a eu cette invasion là, du coronavirus qui s'est déclarée en Chine au mois de janvier. Et du coup, le Népal étant le pays voisin de la Chine, je me suis dit, c'est peut-être pas trop le moment. Et puis de toute façon, ils commençaient à fermer les frontières. Donc c'est là où j'ai dû un peu revoir mes plans. Et je me suis dit, ben, dans ce cas, pourquoi pas aller en Afrique? Où là, j'ai trouvé donc l'ONG qui s'appelle Eco Agric Uganda. C'est une ONG donc, que j'ai trouvée sur Workaway, justement. Donc je les ai contactés, on a fait quelques Skype ensemble. Pour un peu voilà, connaître un peu les attentes de chacun. C'est une ONG donc, qui a été créée en 2007 et l'idée c'était vraiment de soutenir les communautés qui sont vulnérables là-bas en Ouganda. Leur mission principale, et c'est aussi surtout pour ça que j'ai choisi, parce que c'est comment dire, c'est très diverse comme mission et c'est à la fois très concret. C'est-à-dire que eux, leur principal objectif, c'est vraiment d'améliorer les moyens de subsistance des personnes là-bas. C'est vrai que là-bas, il faut savoir que bah, avoir le dernier iPhone, dernier cri, bah, c'est pas du tout leur objectif en fait. Ils n'ont pas du tout les mêmes priorités. Là-bas, c'est vraiment l'autonomie alimentaire, pouvoir subsister, survenir à leurs besoins. Et donc, c'est hyper important de favoriser l'autonomie chez les familles ougandaises. Notamment la production agricole, voilà, comment faire un jardin, faire pousser des fruits et légumes pour pouvoir se nourrir, l'éducation aussi des enfants, très important. Il y a aussi des missions dans la santé pour favoriser aussi la nutrition, développer des compétences pour qu'ils soient autonomes en fait. L'idée c'était vraiment ça et je pense que comment dire, c'est un enjeu très important. En Ouganda.
Et concernant tes proches, comment ils ont réagi quand tu leur as dit c'est bon, je pars en Ouganda, la valise est faite?
Alors, ça a été. Alors, autant donc pour mes parents en tout cas. Autant pour la césure, ils étaient plutôt favorables. Ils se sont dit, ah ouais, c'est une très bonne expérience à faire maintenant, ce sera très enrichissant. Autant quand je leur ai dit que mon départ était prévu pour l'Afrique, ils ont un petit peu, bah forcément, ils étaient inquiets. Ils se sont dit, oh là là, c'est dangereux. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui étaient donc très étonnées, très surpris, admiratifs aussi, je pense, un petit peu. Mais qui n'était pas très serein. Et c'est vrai que bah forcément, on se pose la question, on se dit, ouais, est-ce que j'ai bien fait de choisir ça, etc. Voilà, on a des petites appréhensions face aux réactions. Après, voilà, moi, je m'étais renseignée. L'important, c'est vraiment de se renseigner. Si je peux vraiment donner un conseil, c'est se renseigner beaucoup. En fait, il faut pas avoir peur, il faut simplement connaître les risques, connaître ce qui est possible d'arriver ou pas, et puis agir en conséquence, quoi. Voilà, moi j'ai clairement, pendant toute mon expérience en Ouganda, j'ai jamais eu peur ou quoi que ce soit, je me suis jamais sentie en insécurité. Donc voilà, quoi,
Et ça,
c'est.
justement, le fait, enfin, que t'as abordé le sujet, le fait de savoir que tu étais une femme seule qui voyageait, à aucun moment tu t'es mis de barrière sur les pays où tu pouvais aller?
L'Afrique, du fait que j'étais encadrée comme ça dans une organisation, j'étais plutôt rassurée. Je suis pas sûre que je serais partie vraiment toute seule, non encadrée. Après, le Népal, par exemple, c'est un pays où, bon, je me suis renseignée, c'est un pays qui est très, voilà, niveau sécurité, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'en tant que femme seule, oui, j'aurais pu me débrouiller seule. Donc oui, il faut quand même faire attention. Après, me mettre des barrières vraiment. Je pense que si on veut vraiment aller dans un pays, on peut toujours s'entourer voilà, de certaines personnes ou de certaines organisations. Moi, l'Ouganda, quand je suis partie, j'ai jamais été vraiment seule en fait. J'ai rencontré mes hôtes à la sortie de l'aéroport. Pendant toute l'expérience, j'étais avec les autres volontaires qui étaient sur place et avec les locaux qui m'ont très bien accueillie. Et puis après, bah, je suis repartie, mais c'est vrai que j'ai jamais été vraiment seule, quoi.
Donc je vais juste faire un récapitulatif un peu rapide pour les gens qui connaissent pas l'Ouganda. Donc comme tu as dit, c'est un pays situé à l'est de l'Afrique, juste à côté du lac Victoria. Donc avec une végétation assez luxuriante quand même. Enfin, ça ressemble pas au désert du Sahara quoi en fait.
Non, ça c'est sûr.
Sa capitale c'est Kampala. Je pense que ça se prononce comme ça,
Exact.
avec 42 millions d'habitants à peu près, et c'était une colonie britannique, donc de 1888 à 1962, ce qui explique que du coup il parle bien anglais, enfin de ce que j'ai compris.
Oui, parce que c'est leur langue presque pas natale, mais c'est leur seconde langue, quoi. Vraiment, ouais. Ils parlent très bien d'anglais là-bas. C'est aussi pour ça que je suis allée là-bas, parce que je me dis il y aurait un vrai véritable échange, parce que c'est vrai qu'on connaît pas la langue, bon voilà, on peut toujours dépasser la barrière de la langue, mais ça reste plus difficile pour comment dire, capter un petit peu les nuances ouais, quand on nous explique des choses un peu plus techniques, où je me suis dit bah l'Ouganda il parlait vraiment bien anglais, donc, contrairement à la Tanzanie par exemple.
Et donc, tu étais là-bas entouré de d'autres volontaires qui, eux, étaient pas ougandais pour le coup.
Ouais, exactement. Y en avait, alors, il y avait deux Américains et deux Allemands. Et ce qui est super intéressant dans cette expérience de volontariat, c'est que forcément, voilà, on se retrouve ici dans la même organisation, de pays totalement différents, mais avec la même volonté d'agir. Une expérience comme ça, surtout en Ouganda, en tout cas, c'était vraiment un retour à l'essentiel, quoi. Vraiment les besoins de base, et c'est vrai que ça te donne une autre perception des choses, et je pense que ça en inspire pas mal dans ce domaine-là, quoi. Et on voit qu'il y a des profils très différents et qui sont, ouais, dans un questionnement comme ça, un tournant parfois de leur vie, qui se demandent, qui ont envie aussi de dépaysement, tout simplement. Alors, les missions quotidiennes, on faisait. Alors, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner par exemple les agriculteurs dans la campagne ougandaise, on va dire. Donc par exemple, l'organisation elle faisait un jardin de démonstration pour venir faire des formations qui visaient à être autonomes. Donc c'était des formations avec les agriculteurs sur place ou avec les écoles. Donc nous, les volontaires, on aidait un petit peu sur ce jardin de démonstration. Donc là, c'était plutôt un peu côté jardinage, voilà. Mais on s'initie aussi pas mal à la permaculture. Pour faire simple, en gros, c'est une manière de cultiver, mais plus respectueuse de l'environnement. Donc sans pesticides, sans engrais chimiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très naturel. Et qui vise un peu à être, comment dire, les différentes espèces être en symbiose, quoi, pas séparer forcément tous les fruits, les légumes d'un autre côté. C'est avoir les interactions et conserver cet écosystème naturel, en fait, de la nature, quoi, du jardin. Donc voilà, ça c'était un peu sur le principe de la permaculture. Donc l'idée c'est de former comme ça les personnes pour qu'elles puissent, encore une fois, devenir autonomes. Ensuite, il y a les. Donc, ça, j'y ai participé un petit peu. Il y a aussi l'aspect enseignement, éducation dans les écoles où il y a des enfants qui ne peuvent pas forcément payer les frais de scolarité. Donc, c'est les volontaires qui s'en chargent dans les écoles de l'ONG. Alors, ça, malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que moi, quand j'étais sur place, voilà, avec le confinement, les écoles étaient fermées. Mais c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Donc là-bas, on peut enseigner par exemple l'anglais, les mathématiques dans certaines classes, le sport, et les activités aussi créatives, voilà, pour développer un peu la créativité des enfants. Alors une chose que j'ai faite aussi avec les autres volontaires, c'était on a essayé de créer un marché. Donc là, c'était vraiment physique, on creusait, on bêchait pour essayer Donc dans la terre, en fait, l'idée c'était de faire. Une espèce d'escalier comme ça où on aurait pu mettre les étals de fruits et légumes. Et l'idée c'était de pouvoir de vendre les productions que les femmes avaient cultivées pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc vraiment quelque chose de super important en fait qui pourrait leur permettre de les faire vivre. Voilà, ça c'était un petit peu
C'est les femmes
l'objectif.
en particulier qui étaient visées dans ce cadre-là?
Alors dans ce cadre-là, ouais, parce que c'était les hommes et les femmes qui cultivaient au jardin, mais c'était plutôt les femmes qui étaient chargées de vendre. Voilà, là-bas, c'est un petit peu la culture, en tout cas dans ce projet-là, c'est ce que j'ai pu voir.
Mais en vrai, je trouve ça vraiment génial quand même. Enfin, j'ai l'impression, enfin, dis-moi si je me trompe, mais que l'objectif de l'ONG, c'était vraiment de transmettre du savoir et pas que d'avoir des aides ponctuelles en mode on va les aider un moment et après on passe à un autre problème. Là, c'est vraiment en continu, on va faire en sorte qu'on leur donne du savoir pour qu'ensuite eux deviennent autonomes.
C'est exactement ça. L'idée, c'est que ce soit une action pérenne, en fait, durable, vraiment, et pas que, bah, comme tu dis, aider ponctuellement. Et le meilleur pour ça, c'est vraiment les former et qu'elles puissent après être capables de faire par elles-mêmes et d'être autonomes, quoi. Ouais, ça, c'était vraiment l'objectif principal de cette organisation. Après, il y avait d'autres projets plus orientés sur la santé, où là, alors moi, je m'en suis pas chargée, c'était plutôt l'Allemande qui était avec moi. Où elle, en fait, il faisait des campagnes de sensibilisation, d'accompagnement sur les questions un peu de sida, de VIH, qui sont quand même assez présents là-bas, et il faut en parler, et on n'en parle sans doute pas assez là-bas, voilà, il n'y a pas forcément de moyens de contraception, etc. Et c'est vrai que c'est important de le préciser, les familles ne le connaissent pas forcément, donc l'ONG, elle est aussi là, question santé, pour parler de ces sujets-là. Voilà, et enfin le troisième un peu axe, on va dire, là c'était avec des réfugiés où on leur apportait, enfin l'ONG leur fournissait un peu des vêtements, du matériel scolaire, et c'était des vêtements qu'on avait nous amenés de France en fait, des vêtements moi, que j'avais pris qui étaient trop petits, etc. Et de pouvoir les distribuer comme ça, même du matériel scolaire, ils étaient mais en émerveillement devant un cahier, un stylo, enfin pour eux c'était incroyable quoi, c'était d'une richesse incroyable. Et là, c'est là où tu te dis, ah ouais. Enfin voilà, on sait qu'il y a de la pauvreté, mais c'est vrai que de le voir comme ça, de tes propres yeux, de le vivre, et de voir le sourire de ces enfants qui n'ont pas grand-chose et qui finalement te donnent tout. Enfin, on a été super bien accueillis avec les volontaires, ils ont fait une danse traditionnelle, c'était très fort comme moment. Voilà, et après aussi l'idée, donc l'ONG elle est sur une résidence qui est éco-conçue, donc là pareil avec comment on peut appeler ça, des lodges, des éco-lodges ils appellent ça, qui sont construites donc avec de la paille, de l'eau, de la terre, voilà, quelque chose de très naturel. Et donc l'idée aussi avec les volontaires, c'est d'améliorer un peu la qualité de vie sur cette résidence-là, donc où on est hébergé. Ces petits écologes. Voilà, et donc moi j'ai aussi participé à comment, alors c'est quelque chose de très basique, très rudimentaire, mais voilà, à construire un lavabo, parce qu'il n'y avait pas de lavabo par exemple là-bas, avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire les bouteilles en plastique, le bois, et très peu d'outils aussi, c'est-à-dire qu'on avait juste une scie à main et puis un marteau, des clous quoi, donc il faut vraiment faire avec les moyens du bord. Ce qui n'est pas forcément simple, quoi, quand on a l'habitude d'avoir un peu tout sous la main.
Et là, pour un peu bon, enfin, mettre de côté le côté enfin, mission et tout, la vie en Ouganda, c'était comment la vie je veux dire que, enfin, il me semble que tu m'avais parlé de la musique, qui était super sympa. Est-ce que tu as pu parler un peu avec des Ougandais? Enfin, c'était comment?
Alors, effectivement, ouais, les Ougandais, ils sont très très chaleureux. C'est vrai que très musique, ils ont toujours le sourire, ils sont très optimistes. C'est des personnes aussi qui sont très serviables, toujours là pour t'aider. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui m'a assez marquée. Ils sont très curieux aussi de l'étranger, ils te demandent bah, comment c'est dans ton pays, est-ce que les bananes plantains ça existe? Est-ce que les pommes de terre ça existe? Voilà, ils sont très curieux de ça. Et sinon, oui, très très chaleureux. C'est vrai que la musique, comme tu dis, est très sympa, assez fédératrice. Et puis ils aiment bien sortir, faire la fête. Ouais, ça c'est vrai que la
Tout ce
vie
que t'aimes, quoi.
là-bas. Ouais, exactement. J'ai eu l'occasion, tu vois, par exemple, d'aller dans une, de me retrouver dans une. Dans un bar, quoi, une boîte là-bas, et je pensais pas du tout arriver dans une boîte ougandaise, mais on est allé du coup avec les volontaires et puis des locaux qui nous ont complètement inclus, enfin c'était super bien, et avec la musique comme ça, afro, enfin c'est génial quoi, ça crée une ambiance.
Et là, c'est quoi la suite? Tu prépares la suite ou Tu sais pas trop, c'est flou total.
Donc, dans l'idée, oui, j'aimerais repartir. Après, je ne sais pas trop encore. Là, je vais peut-être commencer par faire mon stage de fin d'études d'abord. En attendant que la situation passe vraiment et pouvoir repartir du coup dans des meilleures conditions où là il n'y aura pas ce problème de virus, de barrières, de gestes barrières et puis cette distance un petit peu qui a, il faut quand même le reconnaître, un peu peut-être fausser les réalités sur la fin.
Pour conclure sur la note un peu solennelle, selon toi, c'est quoi cette césure et puis peut-être un peu le confinement, les problèmes environnementaux de nos sociétés que tu aimerais pointer du doigt et quelles sont selon toi les solutions qu'on pourrait apporter à notre échelle?
Les problèmes actuels, bah, après on les connaît un petit peu, hein. C'est les constats que souvent on nous répète, après il y en a qui y croient, d'autres un peu moins. J'ai cette impression que tout le monde se renvoie un petit peu la balle dans le sens où les consommateurs, nous, disent, bah voilà, oui, c'est la faute des entreprises qui polluent, etc. Et les entreprises, bah, s'adaptent aussi aux consommateurs, c'est-à-dire que bah, si le consommateur n'est pas forcément ouvert au changement, à changer un peu ses habitudes, bon bah ils vont rester dans cette catégorie-là, quoi. Donc moi je dirais que les solutions qu'on pourrait apporter, c'est vraiment que chacun puisse agir à son échelle. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, avoir une consommation plus responsable, acheter local, acheter peut-être bio, enfin sans sortir des clichés ou quoi que ce soit, mais. Et pourquoi pas aussi favoriser le zéro déchet. En ce moment, c'est un petit peu la mode, mais au-delà de l'effet de tendance, je pense que c'est vraiment super utile, limiter à fond le plastique. Et là, maintenant, il faudrait vraiment prendre conscience des choses et réagir. Je pense que chacun à son échelle, on peut faire quelque chose. Et les entreprises réagiront aussi dans le sens où le consommateur sera en demande d'une consommation comme ça, plus responsable. Donc les entreprises adapteront leurs produits. Mais voilà, il faut bien que ça vienne de quelque part, je pense en tout
Il y a
cas.
un point de départ, c'est là. Et puis je pense que le confinement, enfin en tout cas j'espère sincèrement que le confinement a permis d'accélérer cette remise en question. Et puis bah tu parlais du fait de manger local et tout, et bah, tu vois par exemple en Ouganda le fait que l'ONG, ou un organisme ou autre chose forme les habitants à faire leur propre nourriture, enfin. Je dis pas qu'on pourrait importer ça en France, c'est vrai qu'on va pas donner une formation à chaque Français à comment planter des poireaux, mais c'est quand même important de donner l'envie et puis de faire passer la connaissance pour qu'il y ait plus d'agriculteurs proches de nos villes, proches des points de consommation.
Oui, exactement, exactement. Bah, c'est une expérience comme ça en Ouganda où tu vois que les populations visent à être autonomes. Bah, tu te dis, ben oui, il y a pas de déchets, il n'y a pas de plastique, c'est directement à la source. Alors voilà, comme tu dis, sans être extrême non plus et faire son potager forcément dans le jardin, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie. Déjà, consommer plus local, je pense que ça dynamiserait déjà notre économie. Et puis. Voilà, tu sais d'où proviennent tes produits dans ton assiette, ça vient pas de l'autre bout du monde.
Bah écoute, j'espère que ça en fera réfléchir plus d'un et d'une. J'espère pour toi que tu vas pouvoir repartir à l'autre bout du monde, apprendre encore de belles expériences et nous revenir avec plein de bons conseils sur comment sauver la planète et comment danser sur la musique ougandaise.
Peut-être pas sauver la planète quand même, mais j'ai pas cette prétention-là, mais. Oui, à mon échelle, faire ce que je peux et si je peux en inspirer certains et s'il y en a qui doutent encore de voilà, pouvoir partir en césure, en volontariat ou partir seul, voilà, c'est possible si on veut qu'on s'organise, qu'on s'informe, c'est possible. Et puis avoir un impact, je pense que c'est encore plus valorisant dans ces voyages.
C'est clair. Ça me fait réfléchir en vrai, moi aussi, vu que j'aime bien voyager. Au lieu de faire du simple tourisme et de me faire plaisir, je peux me faire plaisir autrement en faisant du volontariat, en donnant un coup de main et en voyant une autre facette du pays qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. Donc, bah écoute, mais moi, ça me fait réfléchir. J'ai hâte que le confinement, enfin, que la situation sanitaire s'améliore. Et puis, bah écoute, à tout moment, on se casse tous les deux en Ouganda. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les musiques que tu m'as envoyées.
Ah bah ouais, carrément, hein.
Bon, en tout
Avec
cas, je vais
plaisir.
mettre toutes les infos que tu m'as données, les liens, l'ONG, enfin, tout ce dont on a parlé, je vais le mettre dans l'article. Et encore une fois, ça me fait très très plaisir puisque tu es la première personne que j'accueille dans ce podcast.
Bah ouais, complètement, complètement, avec plaisir, hein. Pour ceux aussi que ça intéresse, voilà, ça c'est, je commence un petit peu à le détailler dans un blog. Là, je suis en train de commencer le blog. Du coup, voilà, si y en a qui veulent avoir plus d'informations sur Workaway, sur l'expérience comme ça en volontariat, je détaille ça un petit peu dans un blog que je suis en
Bah,
train
écoute,
de
très beau
commencer.
placement de produit, incroyable.